Voilà ce qu'il pensait faire. Donc on a trouvé ça dans les manuscrits, donc de... Voilà ce qu'il écrivait dans son manuscrit. Donc le roman doit être ceci, montrer le milieu peuple, expliquer par ce milieu les mœurs, les habitudes du peuple. Comme quoi à Paris, la soûlerie, comment ils voient les Parisiens, n'est-ce pas ? La soûlerie, la débandade de la famille, les coups, l'acceptation de toutes les hontes et toutes les misères, viennent, alors là c'est une explication, c'est pas pareil, hein, viennent des conditions même de l'existence ouvrière, des travaux durs, des promiscuités, des laissés-aller, etc. En un mot, un tableau très exact de la vie du peuple avec ses ordures, sa vie bâclée, son langage, hein, réflexion sur le langage, son langage grossier, ce tableau ayant comme dessous, sentait cependant, le sol particulier dans lequel poussent toutes les choses. Ne pas flatter l'ouvrier, ne pas le noircir. Hein, donc une histoire de mesure. Une réalité absolument exacte. Là, on est dans une perspective réaliste. Au bout, la morale se dégageant d'elle-même. Donc vous voyez, par rapport aux fables de La Fontaine, pour lui, il y a une morale dans l'Assommoir. Donc on pourrait dire quasiment que l'Assommoir est un roman en forme d'apologue, c'est-à-dire qui contient une morale. Un bon ouvrier fera l'opposition, ou plutôt non, ne pas tomber dans le manuel. Un effroyable tableau qui portera sa morale en soi. Voilà. Alors je ne vous lis pas tout, je vous y renvoie pour ceux qui ont la même édition sur l'ébauche du roman. On va aller un petit peu plus loin vers ce qui concerne le dénouement, hein, c'est-à-dire l'excipit. Voilà ce qu'il dit à propos du dénouement. La fin du drame est la chose la plus importante. Voilà, pour lui, l'essentiel, c'est le dénouement. Dans vos devoirs, c'est un peu pareil. Dans votre exposé, c'est un peu la même chose. Hein. Alors, bien sûr, j'en passe, hein, vous lirez plus complètement. Non, là j'ai prévu de le lire, alors j'y vais. Il faut y employer tous les personnages, surtout les parents, les poissons et les boches. D'autre part, Gervaise doit être le personnage principal, central, et comme je raconte surtout sa vie, que je veux faire d'elle un personnage sympathique, je dois montrer tout le monde travaillant à sa perte d'une façon consciente ou inconsciente. Les dettes sont d'abord nécessaires. Pour se nourrir et nourrir son fainéant de mari et l'entier par surcroît, elle peut emprunter de tous les côtés, au boucher, au boulanger, au charbonnier, à l'épicier, etc. Puis pousser à bouche, puis la montrer, descendant jusqu'au trottoir, et pour rendre le drame plus terrible, je peux encore la faire enceinte. Entre parenthèses, songer au suicide, ce qu'on a nous dans l'excipit qui est suggéré, hein. Mais alors, ce qu'il écrit un peu après, mais je veux surtout rester dans la simplicité des faits, dans le courant vulgaire de la vie, tout en étant très dramatique et très touchant. Et un peu plus loin. Alors, là, c'est le dénouement qu'il prévoit avant d'avoir écrit le roman. Vous allez voir dans quel sens il a travaillé, c'est-à-dire que on a dit qu'il avait essayé de ne pas... déborder du pathétique dans le mélodramatique, mais là ça va au-delà, on n'est pas loin de ce qu'on appelle le grand guignol, c'est-à-dire quelque chose de totalement excessif. Alors voilà comment il voyait son dénouement. Au fond, elle aime toujours l'entier, cet amour est nécessaire, pour lui donner quelques caractères et la relever. Voici alors quel peut être le drame. L'entier a pour maîtresse la poisson, la femme du sergent de ville. Il mange la petite boutique d'épicerie. Elle tenait une épicerie dans son projet. Hein. Alors tous les personnages, les Lorilleux, les Boches, pour des raisons multiples à trouver, poussent Gervaise contre la grande Adèle, celle du début. Gervaise est alors grosse de l'entier. Coupeau ne compte plus. On ménage à Gervaise une occasion de trouver la poisson et l'entier en flagrant délit. Elle les trouve et leur casse une bouteille de vitriol.
C'est de l'acide sulfurique.
Une bouteille de vitriol sur leur corps, dans leur lit. Alors l'entier, rendu fou par la douleur, la prend et la traîne par les cheveux dans la cour, devant les boches. C'est là que Gouget peut arriver et engager un duel formidable, avec l'entier dans la cour, les portes fermées, avec des armes différentes et terribles. Disposer la maison pour cela. L'attitude de Coupeau et des autres personnages, un détail épouvantable. L'Orieux peut s'approcher de Gervaise étendue sur le sol et râlant, et lui donner un coup de pied sournois. Tiens, garce ! C'est de ce coup de pied dont elle meurt. La scène à la tombée du jour, on va chercher le sergent de ville, le mari, à trouver. Voilà, le dénouement tel que Zola l'avait prévu.